Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et nous voici à nouveau réunis en ce dimanche soir, il est 23h, et c'est Bon Jouir qui démarre. Un Bon Jouir qui sera placé sous le signe du silence enfin mis en voix. Ça ne veut rien dire du tout là ce que je suis en train de vous dire. Un Bon Jouir en tout cas qui est avec une nouvelle thématique pour ce mois d'octobre, la thématique de ce dont on ne parle vraiment pas. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour parler pendant une heure de ce que l'on ne parle vraiment pas. Et on n'est pas dans Harry Potter, s'il vous plaît. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés et ES. J'espère que vous êtes confortablement, disposés à entendre ce dont on ne parle pas, à peut-être avoir la curiosité de savoir mais qu'est-ce que ça va être. Oui, bon, le suspense ne va pas non plus être fou, ne vous inquiétez pas. On n'est pas non plus dans une émission complotiste, mais non, pas du tout, c'est Bon Jouir. Bon Jouir, il est question de quoi ? Eh bien, de jouir, pas que. De bon, pas que. Et de sexe, oh oui. Allez, Bon Jouir, émission 168, c'est parti.
Bon Jouir.
Sur Canal B.
Nous sommes en 1995. Benjamin a 15 ans. Il se sent différent, mal dans sa peau, comme si l'étiquette de cette peau était rêche et grattait son cerveau sans relâche. Tu es différent. À quoi bon essayer de croire le contraire? À quoi bon prier un Dieu auquel tu ne crois pas? Mais tu souhaiterais si fort qu'il existe pour qu'il t'entende. Dieu, si vous êtes vraiment là-haut, et que vous n'avez pas trop le vertige, est-ce que vous pouvez vous pencher un peu vers moi? Juste un peu. Tournez la tête encore. Là, voilà, c'est moi. Vous me voyez bien? Est-ce que vous supportez de me voir? Est-ce que vous êtes pris de nausée quand vous regardez au travers de moi? Qu'est-ce que je fous, putain? Bon, j'ai rien à perdre. Par un peu de temps. Voilà, en fait, ce sera pas très long. Il faut que je vous parle d'un truc dont je ne parle à personne. Je vais faire vite, comme on enlève un sparadrap. Je crois que je suis pédé. Mais je n'ai pas envie de l'être. Je ne connais personne qui l'est. Je sais juste, je ne sais pas comment, que ça existe. J'ai vu des films qui en parlent, des histoires d'amour cachées, des drames, des documentaires sur le sida. J'ai peur. Tellement peur. Je suis pas quelqu'un de courageux, j'ai peur de tout. J'ai peur qu'on voit à travers moi comme vous avez le pouvoir de le faire. Les gens savent, c'est sûr. Ils me regardent d'une drôle de manière. Ils sentent que je suis mal à l'aise. Ils voient l'étiquette de ma peau, ça doit être écrit dessus. Je ne comprends pas. J'ai aussi joué avec des filles. Pourquoi ce sont les garçons, les hommes vers qui je suis attiré? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ça? Si vous faites en sorte que j'arrête, je promets d'être sage. Je sais que vous n'êtes pas le Père Noël. D'ailleurs, comme lui, vous n'existez sûrement pas. Mais s'il y a une infime chance, alors je veux pas la rater. Je vous en supplie, aidez-moi. Merci. Amen. J'ai fait un rêve, ça se passait dans le futur. J'étais marié à une femme, j'étais malheureux. Les gays, lesbiennes, queers ne se cachaient plus autant, ils avaient même obtenu des droits. Le droit de ne plus être insulté, le droit de ne plus être tué, le droit de se marier. Qu'est-ce qui me retenait encore dans cet avenir plein de promesses? Que rien n'est jamais vraiment acquis, qu'il faut et faudra toujours se battre pour avoir le droit de respirer si l'on ne fait pas partie d'une norme qui a été décidée par le plus grand nombre. Un jour, ça a été une idée, un concept, comme l'argent, comme le travail. Quelqu'un dans l'assemblée a dû lever le doigt et dire « Attendez une minute. Moi, je n'ai pas très envie de faire comme vous autres, de rencontrer une femme ou un homme, de me marier, d'avoir des enfants, une maison, une voiture, un chien, une télé. Et là, tout le monde s'est retourné vers ce quelqu'un et... Dans mon rêve, on approchait de 2025. C'est fou, c'est dans 30 ans. Ça me paraît si loin, inatteignable. Est-ce qu'on aura vraiment le droit de vivre comme on est? Et si oui, pour combien de temps?
Alors, je ne suis pas en compagnie de Benjamin Bechler pour cette émission, mais c'est quand même lui qui l'a démarré, comme vous avez pu le constater. Le texte que nous venons de partager s'appelle « Rêve » et bien sûr, il est en résonance avec le thème qui est le nôtre pour ce mois d'octobre, qui est, je vous le rappelle, « Ce dont on ne parle vraiment pas ». Voilà, c'était une dédicace de Benjamin Bechler, sa contribution personnelle à cette thématique. Ben oui, il faut dire que d'habitude, il est là à nous savourer de sa voix grave et suave en studio. Et malheureusement, je me retrouve encore dans une solitude éperdue, une solitude dramatique. Et c'est peut-être de cela dont on va parler ce soir, dans Bon Jouir, de la solitude. On n'en parle pas, on en parle peut-être peu. La solitude dans le sens peut-être affectif, la solitude de nos êtres, de nos corps, de ces moments en tout cas, tous ces moments en tout cas où l'on se retrouve seul avec soi, à ne plus savoir qu'en faire de soi. Imaginez-vous, vous étiez avec quelqu'un en couple, voilà, depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, quelques années, je ne sais pas, imaginez ce que vous voulez, et cette relation se termine. Avant cela, il y avait évidemment beaucoup de proximité, il y avait du contact physique, il y avait du désir, il y avait certainement du sexe, il y avait de la tendresse, il y avait peut-être les deux, il y avait des rires, il y avait tout ça. Mais il y avait vos corps, ensemble, dans le même espace. Il y avait, eh bien, une chaleur entre vous, qui s'est petit à petit peut-être délitée, ou pas, peut-être une séparation brutale, peut-être une séparation non désirée de votre part, a dû mettre fin, de manière immédiate, à cette proximité corporelle que vous aviez avec cette personne. La proximité corporelle. Ce moment, cet endroit, où l'on a l'impression que l'autre existe en nous et pour nous. Cet endroit de familiarité avec un grain de peau, une odeur, une haleine peut-être, une odeur de peau, une odeur eh bien de sexe aussi, avec l'odeur de la transpiration. Cet endroit de familiarité avec quelqu'un sur des sujets peu partagé finalement avec d'autres généralement. Cet endroit où deux corps, chimiquement, hormonalement, eh bien, vivent un feu d'artifice ensemble. Être coupé de cela. Jusqu'à encore très récemment, votre main pouvait caresser cette peau. Bien sûr, il y a la question du consentement, mais votre main pouvait à tout instant venir se promener sur ce corps, aller dans ces endroits les plus intimes, y être accueillie et y être comme chez elle. Il en était de même pour votre bouche, pour vos yeux, pour votre nez et pour toute autre partie de votre corps. Sans question d'appartenance, néanmoins le corps de l'autre était là pour vous, présent, disponible, consentant, heureux de se partager et de s'offrir à vous. Et il en était de même, bien sûr, pour vous. Quelque chose existait, de plus ou moins fugace, de plus ou moins intense, de plus ou moins répétitif. Voilà, c'était en fonction peut-être de la durée de votre relation, de la possibilité de vous voir, de tout ça, de tous ces éléments qui font la recette peut-être d'une relation intime et amoureuse. Et puis cela s'arrête, peut-être définitivement, peut-être pas, mais néanmoins, cela s'arrête. Comment votre corps, l'amour, la solitude sont comme les deux yeux d'un même visage, avec un autre corps, disait Christian Bobin, au pluriel. Ou encore, comment votre corps vit la relation amoureuse n'exclut pas la solitude. Si nous nous sentons bien avec nous-mêmes et qu'il nous est possible d'agir indépendamment, Alors nous pouvons véritablement fonctionner à l'intérieur d'un couple.
Alors certes, vous le faites très bien.
Deux personnes autonomes très bien bâtir une relation saine.
Vous savez
alors que deux moitiés
très bien
ne feront jamais un tout.
Votre art de
Patricia
vous donner du
Frey.
Plaisir, mais néanmoins, vous le faites seul. Avec
ces deux
vous,
citations
avec peut-être
nous font
des images dans votre
il
tête
est évident.
Ou des images devant vos yeux
ces
ou
deux
dans
citations
vos oreilles,
font...
mais néanmoins, ça reste vos mains sur votre corps.
Ces deux citations peuvent peut-être nous faire relativiser le rapport à la solitude. Nous naissons et nous mourons seuls, c'est bien ce que l'on dit, en tout cas que l'on meurt toujours tout seul. Et que finalement, comme le dit Patricia Frey, on reste seul dans un couple puisque on est aussi indépendants l'un de l'autre. On fait nos propres choix et dans l'acte sexuel, il en est de même puisque nous sommes seuls. C'est beaucoup d'auteurs et beaucoup de penseurs ont imaginé que la relation sexuelle n'était pas quelque chose qui se partageait réellement comme une fusion de deux personnes tellement ensemble, mais aussi cela pouvait être perçu comme deux solitudes qui se rapprochent. Et chacune cherchant son plaisir au travers, bien sûr, du plaisir de l'autre. Donc on voit bien que la solitude et l'amour, en tout cas, et le sexe ont peut-être des personnes gémellaires dont il faut parfois eh bien, nous faire... auprès desquelles il nous faut, nous, parfois trouver notre place et réajuster notre place. Lorsque je voulais aborder la question de la solitude, il y avait aussi pour moi un autre sujet, c'est évidemment ce rapport au fait, au tactile, au fait de ne pas être touché par quelqu'un d'autre. C'est là-dessus que j'avais terminé avant de commencer les citations. On peut se dire que c'est assez facile finalement de trouver le contact d'une autre personne. Il suffit d'un Tinder, il suffit peut-être d'être un peu ouvert et de faire une rencontre dans un bar, une boîte de nuit. So 80s, ça. Mais oui, certainement, pour la plupart d'entre nous, mais pas pour toutes et tous. Et pour certains, certaines, il y a d'autres freins. Il y a par exemple la question du handicap qui génère une solitude plus accrue. Il peut y avoir aussi la question de... Il peut aussi y avoir la question eh bien, d'une maladie, quelle qu'elle soit, et simplement aussi une forte difficulté relationnelle qui empêche eh bien, de pouvoir se mouvoir dans le monde de façon peut-être facile, de façon aisée. Qu'en est-il pour ces personnes-là? Quelles solutions notre société leur propose-t-elle? Si l'on oublie bien sûr Pornhub ou je ne sais quelle autre plateforme de porno, comment la société s'empare-t-elle de ce sujet, de la solitude affective et sexuelle? Eh bien, il y a une fonction qui peut répondre à tous ces besoins, c'est celle d'assistant ou d'assistante sexuelle. L'activité d'assistant sexuelle est une activité qui consiste à accompagner le plaisir sensuel, érotique ou sexuel, des personnes en situation de handicap, en l'occurrence, qui en font la demande. L'accompagnement à la vie affective et sexuelle est apparu aux États-Unis durant les années 70. Cette pratique est par la suite apparue sous diverses formes aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. L'assistance sexuelle trouve son origine dans les sex surrogates, des partenaires de remplacement, inventés par les sexologues Master & Johnson. Ces derniers étaient a priori destinés aux hommes valides, puis progressivement, ces partenaires de remplacement spécialisés dans les personnes handicapées ont vu le jour, alors que Master & Johnson semblait avoir pris une certaine distance avec cette théorie. Dans les années 80, cette pratique arrive dans certains pays du Nord, mais c'est une autre forme d'assistance sexuelle très clairement destinée aux personnes en situation de handicap. Cette fois-ci, elle est inventée par les personnes handicapées elles-mêmes, désireuse de pouvoir accéder aux services de prostitution. En ce sens, elle peut être considérée comme une prostitution spécialisée. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir apparaître en Suisse alémanique, puis en Suisse romande, les premiers débats sur une véritable assistance sexuelle autonome, une sorte de troisième voie entre l'assistance sexuelle généralisée et la prostitution spécialisée, engagée par ses partisans comme autre chose que de la prostitution. Alors revenons à notre introduction du début et rappelez-vous en vous-même l'instant où peut-être vous avez rencontré ces caresses, les caresses d'une personne pour la première fois dont vous étiez amoureuse ou pas, en tout cas les caresses d'un nouveau corps que le vôtre.
Rappelez-vous peut-être l'excitation, l'adrénaline. Rappelez-vous combien cela vibrait à l'intérieur de vous. Combien peut-être cela mettait tout votre corps en extrême disponibilité, en état d'extrême écoute et d'extrême tension dans le sens positif du terme. Essayez de vous rappeler ces sensations, ces papillons peut-être qui vous parcouraient partout. Essayez de vous rappeler aussi la chaleur que cela put dégager à l'intérieur de vous. Et imaginez-vous sans tout ça. Imaginez-vous sans ne plus pouvoir jamais ressentir tout ça. Quel rapport à votre corps auriez-vous s'il n'était pas vivant, lui aussi, et non pas vivant simplement parce que son cerveau lui donnerait des ordres de marche, de choses à faire, mais vivant par tous les pores qui l'animent. Essayez de vous imaginer. Essayez de vous imaginer à quoi cela pourrait ressembler. Comment votre corps pourrait-il poursuivre sa route? Comment respirerait-il? Comment peut-être deviendrait-il une coque, je ne sais pas, comme un uniforme que vous auriez enfilé nuit et jour, mais qui ne vous apporterait plus d'échange, de communication, plus de sensations. Essayez de vous remettre à cet endroit-là. Je ne sais pas, on a quand même tous vécu une rupture, un moment de solitude intense, un moment peut-être de désert émotionnel, affectif, où nous n'avions pas du tout la possibilité de rencontrer quelqu'un et de retrouver peut-être cette alchimie. Essayez de vous remettre à cet endroit-là où si votre partenaire est parti loin, très loin, voire trop loin, pour trop longtemps. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire ce petit travail de recherche sensorielle avant de poursuivre l'émission. Et c'est sur la reprise de la chanson de Daft Punk, I Feel It Coming, Je te sens venir, par Juliette Armanet, que je vous propose ce petit moment introspectif.
Bonjour ou mourir.
C'est bien celle-là! Oh oui!
Sans détour et sans atout, voilà, j'aimerais faire l'amour toute la nuit, tout le jour, l'amour avec toi. C'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur, et nos destins s'enroulent, n'en aie pas peur. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, n'en aie pas peur. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir en moi. Je te sens venir, je te sens venir. Je te sens venir en moi. Sans détour, oh mon amour, dur que ça dure toujours, toutes les nuits, tous les jours, toujours avec toi. C'est peut-être un peu complexe, sans doute un peu circonflexe, mais je ne veux plus faire l'amour, l'amour qu'avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur, et nos destins s'enroulent, n'en aie pas peur. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur, oui, nos destins s'enroulent, n'en aie pas peur. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir en moi. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir en moi.
sur Canal B.
Il y a bien sûr différentes associations qui permettent de pouvoir proposer ce genre de service, notamment une qui s'appelle l'APAS, A2PAS, qui est une association qui défend la sexualité des hommes et des femmes en situation de handicap. Être en bonne santé, c'est aussi avoir accès à son corps, par le regard, le toucher et la tendresse. Parfois, on peut être empêché d'accéder à sa sexualité en raison de limitations physiques. L'association fait le lien entre celles et ceux qui veulent... L'association fait le lien entre celles et ceux qui veulent découvrir leur sexualité et des personnes accompagnantes à l'écoute dans ce besoin. Ces associations militent pour faire avancer le regard sur la sexualité et pour faire évoluer les lois et les consciences. Car oui, les lois, ça n'est pas si simple puisque, d'après la loi française, l'accompagnement sexuel est considéré comme de la prostitution. Alors lorsque des associations telles que celle-ci proposent des mises en relation, cela est assimilé à du proxénétisme et donc punissable. Les accompagnés qui payent pour un service sexuel sont aussi susceptibles de poursuites. Pour autant, aucune procédure n'a jamais été entamée dans le cadre d'un accompagnement sexuel en France. Ces associations se battent donc pour faire changer les lois afin que cette pratique soit reconnue et acceptée. Accompagner quelqu'un, c'est d'abord l'écouter. Notre sexualité nous est propre, nous le savons bien, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Et pour certains, la chaleur d'un corps contre le sien, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Pour d'autres, l'orgasme, c'est la libération. Chacun et chacune est libre de découvrir ce qu'il souhaite et ce qu'est sa sexualité. Tel est donc l'objectif de ces associations qui proposent des assistants, des accompagnants sexuels. En Bretagne, cette association s'appelle Intimagir.
Est-ce que j'ai le droit d'être amoureux ou amoureuse? Est-ce que je peux avoir un enfant? Mon conjoint peut-il m'interdire de voir ma famille et mes proches? Tout le monde peut se poser ces questions, même les personnes en situation de handicap. En France, il y a un centre ressources Intimagir dans chaque région. En Bretagne, Intimagir vous accompagne sur les sujets de vie affective et sexuelle, de parentalité et des violences. Intimagir, c'est une liste de contacts de professionnels, comme des sages-femmes ou des centres de santé sexuelle. Des informations et des supports utiles, par exemple des vidéos, des fiches conseils ou des sites internet. Intimagir propose aussi des rencontres et des échanges entre les professionnels et les personnes concernées. Intimagir souhaite identifier des espaces d'accueil en Bretagne. Ces espaces permettront d'écouter et d'informer les personnes en situation de handicap. Intimagir soutient aussi la démarche Handigynéco en Bretagne. Des sages-femmes viennent dans des établissements médico-sociaux. Les sages-femmes proposent des consultations gynécologiques et des informations sur la vie affective et sexuelle et les violences. Vous êtes en situation de handicap? Vous êtes aidant? Un professionnel? Vous avez des questions? Allez sur le site d'Intimagir.
Pour moi, l'accompagnement sexuel, ça peut se pratiquer pour toute personne qui a besoin d'accompagnement. Ce n'est pas que écarter les jambes et donner un service sexuel, il y a tout un accompagnement émotionnel. Bonjour, c'est Cybèle L'Espérance. Aujourd'hui, on va parler d'accompagnement sexuel dans Profil sur Melty. J'ai fait 10 ans d'université, mais j'ai qu'un seul diplôme. J'ai été SDF pendant 14 ans, j'ai écrit pour Lonely Planet. J'ai fini par me mettre à l'escorting il y a une dizaine d'années. Comme j'étais quelqu'un d'assez ouverte, qui en parlait assez librement, à un moment, j'ai même évoqué ça sur Twitter, sur mon Twitter civil. Et il y a des gens qui ont réagi, qui disaient « Ah mais j'ai des questions pour toi parce que je connais une personne handicapée, comment on fait pour trouver une escorte qui soit ok, sûre et tout ?» Et en fait, de fil en aiguille, je me suis proposée pour le faire même si j'avais arrêté. Et j'ai vu qu'il y avait cette association, l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui faisait des formations. Et moi, étant mariée, on en a profité un peu pour dire « Bon, je vais apprendre quelles sont les lois en France, comment ça se passe, pour pas me lancer aveuglément et pour rassurer aussi ma famille autour de ça, quoi. L'accompagnement sexuel, j'en faisais déjà à travers l'escorting que je pratiquais. Quand j'ai commencé, mon public cible, c'était des hommes qui étaient très timides, qui étaient puceaux, même dans la trentaine, qui étaient sur le spectre de l'autisme. C'était le genre de mec qui déjà m'attirait assez naturellement. Donc à un moment, je me suis mis à le faire de façon professionnelle. C'est juste ça qui a été la transition. Et j'avais jamais mis le mot accompagnement sexuel là-dessus, c'était juste que c'était mon public cible. Et en France, bah, j'ai découvert la partie plus handicap physique, où là, moi, j'avais un peu peur de mal faire les choses, mais je me suis rendu compte que la démarche d'accompagner les personnes, elle est les mêmes qui a un handicap physique, ou qui ait d'autres problématiques, ou qui ait des besoins finalement en accompagnement. Mes clients, je les reçois principalement par des sites d'escorte. Cybèle, l'Espérance n'a plus de site d'escorte en ce moment parce que, étant un visage découvert, étant très médiatisé, j'ai été harcelée énormément par des personnes anti-prostitution ou par des mecs, voilà, être une femme sur Internet, quoi. Quand je me suis rapprochée de la PASS, j'ai vu qu'ils donnaient une formation sur 4 jours. Et je me suis inscrite et après j'ai fait un module 2 qui n'existe plus, qui était pour le handicap mental et pour les couples. Je suis aussi impliquée donc au STRAS, le syndicat du travail sexuel, c'est un syndicat militant. Dans ce cadre-là, je suis vraiment plus une travailleuse du sexe et j'insiste, les accompagnants sexuels ce sont des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais du coup, on est sous le régime de la prostitution, donc il y a des droits à réclamer parce qu'il y a plein d'injustices au niveau du droit français, bah notamment cette idée que nos clients sont pénalisés. Donc si on n'a pas le droit d'avoir des clients, si les clients n'ont pas le droit de venir à nous, bah comment est-ce qu'on peut travailler et travailler en sécurité? Pour moi, l'accompagnement sexuel, ça peut se pratiquer pour toute personne qui a besoin d'accompagnement. Ce n'est pas que écarter les jambes et donner un service sexuel. Il y a tout un accompagnement émotionnel. L'idée que quelqu'un a un handicap physique ne dit pas s'il a besoin d'être accompagné ou non. Ça dit seulement que peut-être il y aura des adaptations à faire, qu'il va falloir qu'il soit transféré sur le lit, qu'il va falloir l'aider à se déshabiller ou des choses comme ça. Mais il peut très bien ne vouloir que Ken, tout simplement, en fait. Mais il y en a d'autres qui, après une rupture, après un divorce douloureux, des violences conjugales, ils peuvent avoir besoin de se réapproprier leur sexualité. Ou encore s'ils ont des dysfonctions sexuelles, des difficultés à éjaculer, autres difficultés de la prostate, tout ça. Là, on peut faire de l'accompagnement et pourtant la personne, bah, elle est valide, en tout cas aux yeux de la société. Donc, moi, je ne fais pas la différence. Et les associations, par contre, elles vont toujours utiliser le handicap comme levier parce qu'il y a une grande acceptabilité sociale à aller faire de l'accompagnement sexuel auprès de personnes handicapées. Ça, entre autres, à cause du validisme de notre société. Récemment, on a sorti un bouquin avec Tan, ça s'appelle TDS, Témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe. Il y a toute une partie aussi sur les chiffres que nos opposantes nous opposent, où je les déconstruis avec un grand plaisir. Et donc, c'est une de mes passions pour moi. Mon sexe que j'appelle de loisir n'a pas grand-chose à voir avec mon sexe de travail. Mon sexe de travail, il est assez codifié, il est encadré. C'est le cadre qui fait que c'est rassurant pour tout le monde. Tout est très explicité. Mais moi, dans ma sexualité de loisir, je me comporte pas de la même façon. Et je suis pas la personne qui va venir enseigner, diriger, accompagner. J'ai besoin d'un peu plus d'abandon. C'est pas du tout la même chose. Les clients, ils ont souvent envie qu'on prenne du plaisir, que ce soit un plaisir partagé. Mais moi, dans ma sexualité privée, j'ai envie qu'on me lâche la grappe avec mes orgasmes et que je puisse juste ne penser à rien et juste être dans l'acte. Dans l'accompagnement sexuel, ce qui est particulièrement compliqué, c'est qu'on se retrouve souvent avec des parties tierces, des grands-parents, des frères, sœurs, des amis. Et il faut gérer ça. Je peux pas dévoiler la vie privée de ces personnes-là. Des fois, ils sont intrusives. Des fois, elles essaient de trop bien faire ou elles veulent avoir un débrief après. Donc il faut gérer ces personnes-là et ça dans l'escorting, j'ai pas ça du tout. Et un autre truc qui est assez compliqué, bah, c'est tout ce qui est incontinence. Et encore, incontinence, la première à laquelle on pense, c'est pas si mal. Cette activité, bah, je la kiffe, c'est pas toujours rose, mais c'est vraiment l'activité que j'ai choisie et qui me convient le mieux. Si on pouvait s'inspirer de la Belgique et aller vers la dépénalisation, ça serait super, mais pour le moment, en tout cas, pour les 5 prochaines années, je vois surtout de la lutte, je vois pas beaucoup de victoires.
Jouir, ça donne tellement de frissons.
Il est l'heure maintenant de retrouver la librairie Foutrac de notre cher Benjamin Bechler avec un autre extrait du roman qui va nous accompagner sur tout le mois d'octobre et qui s'appelle « L'espace d'un an ». C'est le premier tome de la saga « Les Voyageurs » écrit par Becky Chambers aux éditions Le Livre de Poche. Nous voici maintenant promenés, envoyés même, je dirais, dans l'espace pour notre plus grand plaisir. À vous, Benjamin Bechler. Oh.
Elle poussa la porte et resta bouche bée. Devant elle s'ouvrait une vaste coupole faite de plaques de plex emboîtées. C'était une baie vitrée, une immense bulle qui offrait une fenêtre sur toute la galaxie. Et dessous, tout était vert. De grands bacs hydroponiques étaient disposés en spirale. Ils débordaient de larges feuilles, de bourgeons guilleraient, de gros légumes sombres. À intervalles réguliers, des étiquettes manuscrites étaient fichées sur des pics. Rosemary ne connaissait pas l'alphabet utilisé. Certaines plantes étaient en fleurs, des treilles délicates encourageaient celles qui voulaient grimper. Un sentier partait de l'entrée et bifurquait plusieurs fois. Il était bordé de caisses recyclées et de boîtes à provisions d'où jaillissaient des touffes d'une herbe de rue. Ça et là, des composants technologiques au rebut, peints de couleurs vives, égayaient le décor. À l'extrémité du sentier, trois marches donnaient accès à un jardin en contrebas. Une fontaine branlante y murmurait doucement, entourée de bancs et de chaises. Derrière les bancs, des arbustes ornementaux s'étageaient jusqu'aux lampes à UV suspendues à la verrière. Mais juste après avoir remarqué les lampes, Rosemary ne s'intéressa plus qu'aux dômes vitrés, aux étoiles, aux planètes, aux nébuleuses qui attendaient au-delà. Au bout de quelques secondes, elle recouvra assez de présence d'esprit pour faire quelques constatations. L'encadrement du plex était usé et détonné avec l'ensemble de la salle. Les bacs hydroponiques, hétéroclites et tout cabossés, avaient dû être achetés d'occasion. Mais l'aquarium était de ces endroits merveilleux où l'absence d'uniformité devenait un atout. Les plantes étaient belles, bien soignées, mais ne s'épanouissaient pleinement que grâce au matériel bosselé, cabossé et raflé.
Waouh ! C'est incroyable !
« Et nécessaire, crois-le ou non, » dit Sissix. Ça peut paraître extravagant, mais ça remplit trois fonctions utiles. 1. Les plantes facilitent le travail de nos filtres à air. 2. Nous cultivons de quoi manger. Ça fait des économies et c'est bien meilleur pour la santé que les produits conservés en stase. 3. Et surtout, ça nous empêche de devenir fous au bout de plusieurs décades. La salle de repos est parfaite pour se détendre un moment, mais c'est ici que nous venons pour vraiment décompresser. Beaucoup de longs courriers ont des installations similaires. La nôtre est la plus belle, cela dit. Si tu veux mon avis parfaitement objectif.
C'est magnifique.
Rosemary s'arracha à la contemplation de l'espace. Elle réfléchit un instant et se remémora le dôme opaque qu'elle avait aperçu depuis l'ectomodule.
Pourquoi n'ai-je rien vu en arrivant?
C'est fort, hein? Tout est en plex réglable. Ça n'est transparent que si on le décide. Comme ça, on se ménage un peu d'intimité et on ne chauffe pas trop quand on s'approche d'un soleil.
Ça vient d'un yacht armagien.
Kidzi et Jenks ont tout un réseau de récupérateurs qui nous préviennent quand ils dénichent des bidules utiles. Pour l'instant, ce dôme, c'est ce qu'on a trouvé de mieux.
Elle fit signe à Rosemary de la suivre.
Viens, je vais te présenter au type qui fait pousser tout ça.
Elles empruntèrent le chemin de droite qui les mena à une table ovale mise pour le dîner. Les chaises tout autour étaient dépareillées. Un tiers était conçu pour des postérieurs non humains. Des ampoules dépolies, coiffées d'abat-jour multicolores, pendaient à de longs câbles au-dessus de la table. C'était bien loin du raffinement que Rosemary avait connu jadis. Serviettes délavées, assiettes cabossées, condiments médiocres, mais ça se révélait très engageant. Près de la table se trouvait un comptoir. Trois tabourets d'un côté, une grande cuisine de l'autre. L'odeur du pain en train de cuire et des fines herbes grésillantes emplit les narines de Rosemary, qui s'aperçut soudain qu'elle n'avait rien mangé depuis des éternités. Son ventre sonnait creux.
« Hey !»
cria Sissix par-dessus le comptoir.
« Viens faire la connaissance de notre nouvelle collègue !»
Rosemary ne remarqua le rideau devant l'entrée tout au fond que lorsqu'un représentant de l'espèce la plus insolite qu'elle avait jamais vue l'écarta pour s'approcher. L'intel, un « il », selon Sissix, faisait bien deux fois sa taille. Rondelé, enveloppé, il avait la peau gris pommelée. Elle aurait pris pour un amphibien, mais de longues moustaches hérissaient ses joues hémisphériques. Sa figure semblait tout en lèvres supérieures, large et fendue. Rosemary la trouva attendrissante, sans bien savoir pourquoi. Elle repensa aux images d'animaux terriens qui, enfant, la faisaient rêver. Croiser une loutre avec un gecko et faire marcher le rejeton comme une chenille à six pattes aurait donné une créature assez proche du nouveau venu. Les jambes de l'intel étaient les plus difficiles à définir. Elles auraient aussi bien pu servir de bras. Il en avait six, identiques. À son arrivée, il marchait sur deux pattes et les quatre autres portaient deux marmites pleines. Mais quand il les eut posées, il se laissa tomber sur deux paires de membres pour gagner le comptoir.
« Alors, alors, alors ?»
gargouilla l'intel. Sa voix avait des harmonies inhabituelles, comme si cinq personnes parlaient en même temps. Rosemary, qui continuait son examen, nota qu'il portait des vêtements humains. Son torse, si on pouvait l'appeler ainsi, disparaissait dans un immense t-shirt à manches courtes orné d'un dessin. Un pouce humain vert qui fonçait dans l'espace. Autour, un slogan non pas en clip, mais en ensk. Aux plantes de Petit John, tout pour vos hydroponiques transgalactiques. Il avait ménagé des trous supplémentaires sur les flancs pour ses membres intermédiaires. Le bas du corps était vêtu d'un pantalon serré à la taille par une cordelette. Un pantalon ? Plutôt un sac à jambes. La figure de Lintel s'incurva en une imitation de sourire assez déconcertante.
« Je parie, vous avez encore jamais vu personne comme moi !»
Rosemary sourit, elle aussi, soulagée qu'il ait rompu la glace.
« Jamais, je dois l'avouer. »
Lintel s'activait derrière le bar. « Les formations au respect des différences interespèces ne suffisent jamais tout à fait devant la nouveauté, pas vrai ?»«
La première fois que j'ai croisé un de vos semblables, maigre et marronasse, ça m'a coupé le chic. »«
Et pour un membre de son espèce, intervint Sistix,
c'est un grand événement ?»
C'est ça, acquiesça Lintel.
Le silence, ce n'est pas notre truc.
Un bruit jaillit de sa bouche. Un roucoulement grave et chantant. Rosemary jeta un coup d'œil à Sissix, le brouhaha ne se tarissait pas.
Il rit,
murmura Sissix. Enfin, Lintel se tapota la poitrine.
Je suis le docteur Miam.
Moi, c'est Rosemary, vous avez un nom intéressant.
Ce n'est pas le vrai, mais je fais la cuisine, et au besoin, je travaille à l'infirmerie, je suis ce que je fais.
De quelle espèce êtes-vous ?
Grom. Mâle pour le moment.
Rosemary n'avait jamais entendu parler des Grom. Une espèce non UG, forcément.
Pour le moment ?
Pour mes congénères, le sexe biologique est un état transitoire.
Nous commençons femelles, nous devenons mâles quand nous cessons de pondre des œufs et nous terminons sous une forme asexuée.
Le docteur Miam farfouilla sous le comptoir, déposa devant Rosemary un verre de jus de fruits et une soucoupe de biscuits granuleux.
« Tenez, du sucre, du sel, des vitamines, des calories. Le dîner ne va pas tarder, mais vous avez l'air prête à tomber d'inanition. »
Il secoua la tête en regardant Sissix. « Je déteste les ectomodules. »«
Oh, étoile, merci !»
Rosemary se jeta sur les biscuits. Au fond, elle savait bien qu'il n'avait rien d'extraordinaire, mais en cet instant, c'était le plus fabuleux régal de toute sa vie.
« Je peux vous demander votre nom d'origine ?»
reprit-elle quand sa bouche fut un peu moins pleine.
« Vous n'arriverez pas à le prononcer. Essayons !»
Encore une fois, le rire gazouillant.
« D'accord, accrochez-vous. »
Le docteur Miam ouvrit la bouche et cracha une cacophonie effarante de sons superposés qui dura une bonne minute. À la fin, ses joues se gonflèrent 3 fois de suite.
« C'est moi !»
Il désigna sa gorge.
Trachée ramifiée, 6 ensembles de cordes vocales. Dans ma langue, tous les mots se composent de plusieurs phonèmes mélangés.
Rosemary n'en revenait pas.
Apprendre le clip n'a pas dû être facile. Oh que non, et pour être honnête, ça reste parfois un peu fatigant. Synchroniser mes cordes vocales demande beaucoup d'efforts. Pourquoi n'utilisez-vous pas une vocaboîte ?
Le docteur Miam secoua la tête. La peau de ses joues tremblotait.
Je n'aime pas les implants qui ne sont pas indispensables d'un point de vue médical. Et puis à quoi bon parler à des espèces différentes si on ne se donne pas la peine d'apprendre leurs mots ? C'est tricher, à mon sens, de penser une phrase et de laisser un appareil parler à votre place.
Rosemary avala une autre gorgée de jus de fruits. Elle se sentait déjà mieux.
Votre nom a-t-il une signification particulière ?
Oui.
Je suis un bosquet où les amis se retrouvent pour regarder les lunes s'aligner au crépuscule de l'ami... Vous diriez automne, je suppose.
Attention, ce n'est que la première partie. Ensuite, il y a le nom de ma mère et la ville où je suis né, mais laissons tomber. Vous passeriez la nuit à m'écouter traduire.
Et vous, je sais bien que les humains n'attachent pas beaucoup d'importance au nom, mais le vôtre, a-t-il un sens ? Eh bien, même si ce n'est pas ce qui a guidé le choix de mes parents, Rosemary veut dire romarin, c'est une plante.
Le docteur Miam s'inclina. Son poids reposait sur ses membres supérieurs.
Une plante ? Quel genre ? Rien d'extraordinaire, une herbe aromatique, c'est tout. Une herbe aromatique, c'est tout.
Les moustaches du docteur Miam en tremblaient.
C'est tout qu'elle nous dit.
Souffla Sissix. Tu as prononcé le mot magique.
Rosemary, Rosemary.
Le docteur Miam lui prit la main.
Les herbes aromatiques, c'est ce que je préfère. Elles combinent les qualités médicinales et gastronomiques, mes 2 spécialités, comme tu peux t'en douter. Je les collectionne, les herbes aromatiques. Partout où je vais, je me procure de nouveaux spécimens.
Il s'interrompit en marmonnant des mots sifflotés.
Je ne crois pas avoir jamais entendu parler de ton romarin, ça se mange ou bien ça soigne ? Ça se mange, on en met dans la soupe, je crois. Dans le pain aussi, il me semble.
Oh, la soupe, j'adore la soupe!
Les yeux noirs du docteur Miam se fixèrent sur Sissix.
On fait bientôt escale à Port-Coria, je me trompe?
C'est prévu.
Quelqu'un en aura, c'est sûr. Je vais envoyer un message à mon vieil ami Drive. Il saura où chercher, il est très fort pour dénicher tout ce qui se mange.
Sa bouche s'incurva quand il se retourna vers Rosemary.
Tu vois, tu portes un nom très respectable finalement, et maintenant finis-moi ces biscuits, moi je vais vérifier où en sont les insectes.
Il retourna dans la cuisine pour se pencher sur le grill avec force marmonnement. Rosemary se demanda s'il n'était pas en train de chanter.
On me demandait quand j'étais jeune, que j'avais 7-8 ans, ce que je voulais faire plus tard. Je disais, moi, je veux faire l'amour comme métier. Au départ, donc, je suis praticien en relation d'aide psycho-corporelle. Et puis en parallèle de ça, je fais aussi du massage bien-être, hein, plaisir, parce que je suis spécialisé en massage tantrique, qui est un travail sur l'énergie sexuelle, toujours. Accompagnant sexuel pour personnes en situation de handicap, c'est une partie de mon activité professionnelle. On prend rendez-vous, donc, soit à leur domicile, soit en hôtel. Hein, il y a les deux cas de figure, ça dépend. On se rencontre, donc, d'ailleurs, des fois, on se rencontre même directement au restaurant. Hein, elles ont envie qu'on aille manger d'abord ensemble. Je pense à une femme comme ça, en l'occurrence, qui était la première à me demander ça. Je jouais le jeu, c'est un jeu, mais en même temps, j'étais sincère. C'est-à-dire que je lui prenais la main, on discutait vraiment comme une vraie rencontre. On faisait connaissance, tout simplement. De sentir la présence d'un homme, d'avoir ce jeu comme ça de séduction. Et donc, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est chouette, c'est super intéressant, parce que du coup, il n'y a rien de prévu. C'est complètement de l'improvisation et du feeling. Et voilà, donc on a mangé, et puis après, on est reparti à la chambre d'hôtel. C'est une femme tétraplégique qui n'a aucune sensation jusqu'au bassin. Donc tout le bas du corps, je pouvais lui masser les jambes, ça servait entre guillemets à rien parce qu'elle sentait rien. Parce que moi, comme je suis un masseur au départ, puisque ma technique de professionnelle, donc c'est le toucher, donc c'est le massage, donc je commence toujours à découvrir le corps par le massage. C'est une approche fantastique, quoi, parce que ça permet de monter tout doucement la sensualité, le désir. Jusqu'en haut, jusqu'aux hanches, elle sentait rien. Même au niveau du sexe, parce que je masse le sexe en externe, elle sentait rien. Donc c'était compliqué. Donc moi, je pensais pas que ça pourrait aller plus loin. Et puis, elle m'a demandé d'insister un peu plus au niveau du sexe, et surtout en interne. Et là, en interne, elle commençait à sentir quelque chose. Et en fait, son vagin est irrigué, et les sensations sont toujours présentes. Et là, du coup, il y a le désir qui est monté, il y a le désir de ma part aussi qui est monté. Du coup, on a vraiment fait l'amour sexuellement. Et là, j'ai été assez ébahi de voir qu'elle prenait un plaisir pas possible. Et ça, c'était beau, quoi. C'était vraiment fantastique. Et puis, bon, bref, le lendemain, je suis reparti. Et déjà, rien que ça, cette toute première rencontre, j'étais encore dans le train au retour, qu'elle me disait « Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens différent. » Donc, elle avait déjà changé son propre regard sur elle-même. Et donc, forcément, on change le regard des autres aussi sur soi-même. Honnêtement, je ne fantasme pas sur un corps handicapé, ce n'est pas vrai. Par contre, je me laisse toucher par la beauté du regard de la personne qui fait appel à moi. Je fais abstraction, effectivement, complètement du corps, qui peut être déformé, qui peut... Voilà, effectivement, des fois, c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai failli arrêter au début parce que je me suis confronté à des corps qui étaient waouh. Mais j'ai voulu m'accrocher, j'ai voulu me connecter à la personne qui était derrière ses yeux et qui avait besoin de moi, qui faisait appel à moi, et j'ai fait abstraction du reste. Le désir peut faire monter le désir. À partir du moment où mon désir physique est là, j'arrive à avoir une relation. Alors, après, il n'y a pas forcément une relation avec pénétration tout le temps. Il y a des corps, ce n'est pas toujours possible, mais ce n'est pas grave. Au moins, il y a un jeu sexuel, la personne joue avec mon sexe, moi, je joue avec le sien. Il y a plein de possibilités, plein de choses à vivre dans la sexualité, en fait. L'activité en tant que telle est parfaitement légale, parce qu'elle est assimilée à de la prostitution. Hein. Donc, je suis un travailleur du sexe quand je fais cette pratique. Et donc, les travailleurs du sexe ne sont pas embêtés par la justice, ce n'est pas le problème. Par contre, on peut embêter le client ou la cliente. Hein. Donc, c'est l'hypocrisie du système, forcément. Donc, effectivement, au niveau de la loi, aujourd'hui, une personne en situation de handicap ou valide qui fera appel à moi pour un accompagnement pourrait être susceptible d'être pénalisée. Mais c'est surtout le président de notre association qui, lui, en tant que proxénète passif, puisqu'il organise les rencontres, pourrait être taxé de proxénétisme. Non, moi, le terme de prostitution, prostituée, me dérange pas. Bon, c'est vrai, quand je l'ai appris, quand j'ai fait la formation à la PASS, c'est là que j'ai appris qu'en faisant cette démarche, on serait considéré comme travailleur du sexe. Bon, forcément, dans un premier temps, ça fait un peu drôle parce qu'on a une image malheureusement négative de ce terme. Enfin, les travailleurs du sexe classique, pour moi, sont indispensables. Hein. C'est une hypocrisie totale. Hein. C'est un métier qui devrait être reconnu. D'ailleurs, l'OMS, la définition de la santé de l'OMS, pour être en bonne santé, il faut avoir une santé sexuelle épanouie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire l'amour une fois tous les 6 mois, voire une fois par an, et ça leur va très bien. Bon. Moi, j'ai besoin de faire l'amour pratiquement tous les jours, sinon il me manque quelque chose. Donc voilà, chacun doit trouver son équilibre et par contre essayer de le vivre. Et pour ceux qui ne peuvent pas, pourquoi on ne les aiderait pas à le vivre? Les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir de compagnon ou copine parce que leur handicap ne leur permet pas, l'accompagnant fait un acte, je dirais, il devrait être reconnu. Ça devrait même être remboursé par la Sécu. Et je rigole pas en disant ça. Pour moi, c'est un acte indispensable. Et la notion de sexualité en France est assez, soi-disant, libérée, mais c'est faux, quoi. C'est caché, c'est encore plein de tabous. Il faudrait libérer tout ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me bats pour ça. C'est pour ça que je parle à visage découvert et que je milite dans cette association. C'est surtout pour ça aussi, pour faire tomber les tabous et qu'on arrête de se prendre la tête avec ça. On ne devrait même pas en parler de ce sujet. Ça devrait se faire, ça devrait passer. Je ne devrais même pas avoir besoin de parler de ça.
Et c'est ainsi que s'achève Bon Jouir pour ce soir. Alors, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas, si vous aviez peut-être manqué toute ou partie de cette émission, ou si vous aviez envie de la partager avec vos proches ou moins proches, ou si vous aviez envie peut-être de retourner au cœur de l'émission pour aller retrouver peut-être une information que vous aviez manquée, n'hésitez pas, dans tous les cas et dans toutes les positions, eh bien, à aller nous retrouver en podcast sur canalb.fr. L'amour, le plaisir, ça se partage. De toute façon, tout se partage. On est pour le partage ici dans Bon Jouir, vous le savez bien. N'hésitez pas non plus à partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Ce serait un chouette accompagnement de votre part et une façon peut-être d'être des accompagnants sexuels pour votre entourage. Car vous le savez, plus que bien dans Bon Jouir, on n'arrête pas de le répéter, mais plus on parle des choses, plus on libère la parole sur les sujets et plus on peut aussi venir en aide à nos proches de façon tout à fait incongru par moment, mais c'est ainsi que ça peut marcher. Alors n'hésitez pas à partager la bonne parole et le bon jouir autour de vous. Nous vous en remercions très chaleureusement. Il est temps maintenant de nous quitter et de laisser la place au programme de la nuit sur Canal B. J'espère que vous allez passer une cyprinement belle semaine sur Canal B. À bientôt. Thank you.